Hérodias de Gustave Flaubert. Chapitre 1. La citadelle de Makerou se dressait à l'orient de la mer Morte, sur un pic de basalte ayant la forme d'un cône. Quatre vallées profondes entourées, deux vers les flancs, une en face, la quatrième au-delà. Des maisons se tassaient contre sa base, dans le cercle d'un mur qui ondulait suivant les inégalités du terrain, et par un chemin en zigzag tailladant le rocher, la ville se reliait à la forteresse, dont les murailles étaient hautes de 120 coudées, avec des angles nombreux, des créneaux sur le bord, et ça et là, des tours qui faisaient comme des fleurons à cette couronne de pierre, suspendue au-dessus de l'abîme. Il y avait dans l'intérieur un palais orné de portiques et couvert d'une terrasse que fermait une balustrade en bois de sycomore, où des mâts étaient disposés pour tendre un vélarium. Un matin avant le jour, le tétrarque Hérode Antipas vint s'y accouder et regarda. Les montagnes, immédiatement sous lui, commençaient à découvrir leurs crêtes, pendant que leur masse, jusqu'au fond des abîmes, était encore dans l'ombre. Un brouillard flottait. Il se déchira, et les contours de la mer Morte apparurent. L'aube qui se levait derrière Makerou épandait une rougeur. Elle illumina bientôt les sables de la grève, les collines, le désert et plus loin tous les monts de la Judée, inclinant leur surface raboteuse et grise. Engadi, au milieu, traçait une barre noire. Hébron, dans l'enfoncement, s'arrondissait en dôme. Escol avait des grenadiers, Sorec des vignes, Carmel des champs de sésame et la tour Antonia, dans son cube monstrueux, dominait Jérusalem. Le tétrarque en détourna la vue pour contempler à droite les palmiers de Jéricho et il songea aux autres villes de sa Galilée. Capharnaüm, Andorre, Nazareth, Tibérias où peut-être il ne reviendrait plus. Cependant, le Jourdain coulait sur la plaine aride. Toute blanche, elle éblouissait comme une nappe de neige. Le lac maintenant semblait un lapis lazuli. Et à sa pointe méridionale, du côté de l'Yémen, Antipas reconnut ce qu'il craignait d'apercevoir. Les tentes brunes étaient dispersées, des hommes avec des lances circulaient entre les chevaux, et des feux s'éteignant brillaient comme des étincelles à ras du sol. C'étaient les troupes du roi des Arabes, dont il avait répudié la fille pour prendre Hérodias, mariée à l'un de ses frères qui vivait en Italie, sans prétention au pouvoir. Antipas attendait les secours des Romains, et Vitellius, gouverneur de la Syrie, tardant à paraître, il se rongeait d'inquiétude. Agrippa, sans doute, l'avait ruiné chez l'empereur. Philippe, son troisième frère, souverain de la Batanée, s'armait clandestinement. Les Juifs ne voulaient plus de ses mœurs idolâtres, tous les autres de sa domination. Si bien qu'il hésitait entre deux projets, adoucir les Arabes ou conclure une alliance avec les Parthes. Et sous le prétexte de fêter son anniversaire, il avait convié pour ce jour même à un grand festin les chefs de ses troupes, les régisseurs de ses campagnes et les principaux de la Galilée. Il fouilla d'un regard aigu toutes les routes. Elles étaient vides. Des aigles volaient au-dessus de sa tête. Les soldats, le long du rempart, dormaient contre les murs. Rien ne bougeait dans le château. Tout à coup, une voix lointaine, comme échappée des profondeurs de la terre, fit pâlir le tétrarque. Il se pencha pour écouter. Elle avait disparu. Elle reprit, et en claquant dans ses mains, elle cria « Manaei, Manaei !» Un homme se présenta, nu jusqu'à la ceinture, comme les masseurs des bains. Il était très grand, vieux, décharné, et portait sur la cuisse un coutelas dans une gaine de bronze. Sa chevelure, relevée par un peigne, exagérait la longueur de son front. Une somnolence décolorait ses yeux, mais ses dents brillaient, et ses orteils posés légèrement sur les dalles, tout son corps ayant la souplesse d'un singe, et sa figure l'impassibilité d'une momie. « Où est-il ? » demanda le tétrarque. Manaei répondit, en indiquant avec son pouce un objet derrière eux. « Là, toujours. » « J'avais cru l'entendre. » Et Antipas, quand il eut respiré largement, s'informa de Yahochanan, le même que les Latins appellent Saint Jean-Baptiste. Avait-on revu ces deux hommes ?